tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
Merci d'être avec nous pour un nouvel épisode et ce, dans le temps des fêtes, en mode festif, c'est toujours le fun.
Oui, ça nous fait toujours tellement plaisir de vous retrouver, mais d'autant plus dans le temps des fêtes. Je sais pas pour vous, mais Noémie et moi, on a la fibre festive de Noël. Au revoir les grincheux, nous autres, on est des fans du temps des fêtes. On dirait que durant le mois de décembre, il y a comme pas grand-chose qui peut me mettre en maudine bin. Genre, je suis très patiente, tout va bien, tout roule sur des roulettes, les vacances s'en viennent, Noël arrive, la festivité, c'est ça.
On dirait que c'est la seule chose aussi, le temps des fêtes, qui m'aide à passer au travers de la déprime hivernale. T'sais, le soleil se couche à 3 heures. Non, pas 3 heures, j'exagère, là, mais comme 4 heures. Il fait froid, il y a de la neige partout. Moi, je fais pas de sport d'hiver, ça m'intéresse absolument pas. J'ai essayé d'avoir froid puis être mouillée. Est-ce que ça... Ben, ça dépend, en tout cas. Tout ça pour dire que c'est pour ça que j'aime autant le temps des fêtes, puis j'aime ça, tu sais, la bonne bouffe, être en famille, malgré que des fois, être en famille, c'est un petit peu rocambolesque et chaotique, mais somme toute, c'est super génial, les films de Noël, amène-en, puis passer du temps entre amis aussi, c'est le fun.
Les livres de Noël aussi, ma chum, faut pas oublier ça, c'est un aspect important.
Oui, c'est vrai, juste avant qu'on enregistre, Jess m'a parlé d'un livre qui est aussi une autre de mes amies lit, que ça a l'air, je pense que tout le monde lit en ce moment, qui a l'air vraiment excellent, fait que vous aussi, les livres de Noël.
C'est comme un film de Noël, mais comme en format papier, tu sais.
On aime ça. Bref, on va pas s'éterniser plus longtemps que ça, on va juste vous dire, si vous voulez nous faire un beau cadeau de Noël, allez nous suivre sur Apple Podcasts, allez nous suivre sur Instagram, TikTok, et aussi nous laisser une note sur Apple Podcasts, Spotify, 5 étoiles, si vous voulez nous encourager, ça nous ferait bien plaisir, puis ça serait un cadeau de Noël très apprécié. Qu'est-ce que t'en penses, Jess?
Oh oui que je suis d'accord, parce que là vous êtes tellement nombreux à être au rendez-vous à chaque fois qu'on publie un épisode, ça nous rend tellement reconnaissantes, tellement heureuses, mais vous êtes très peu à prendre le temps d'aller nous laisser une note. Là je veux pas vous faire sentir cheap, mais nous là, on prend notre temps pour vous concocter des beaux petits épisodes. Ce serait quoi de prendre 2 secondes pour aller noter notre podcast, hein ma bonne chum?
S'il vous plaît.
S'il vous plaît!
Et parlant de temps des fêtes et de mode festif, on a aujourd'hui évidemment un cocktail qui fit avec le temps des fêtes. Justement, pendant le temps des fêtes, où tout est souvent synonyme d'excès, que ce soit la nourriture, les desserts, ou même, en fait, surtout les cocktails, on vous propose aujourd'hui une alternative rafraîchissante et légère, le Santa's Baby. En fait, ce cocktail-là, c'est mon chum qui l'a concocté, puis c'est un mocktail parce que mon chum ne boit pas, et je pense que ça va faire du bien à tout le monde d'avoir une alternative pendant le temps des fêtes qui... est plaisant à boire, mais que ça te rentre pas dedans, puis que ça te torche pas, puis que t'as pas une gueule de bois le lendemain.
C'est vraiment nécessaire. En plus, je pense que c'est une bonne idée de se donner le petit défi, justement, d'être plus prudent. Durant le temps des fêtes, on a souvent tendance à aller dans l'excès. C'est vraiment correct, le 24, le 25, allons-y, ne conduisons pas par contre. Mais tu sais, les journées avant, là, on est comme porté à s'ouvrir une petite bière, ou à s'ouvrir un petit verre de vin, parce que c'est le temps des fêtes, mais un petit cocktail, un petit mocktail comme ça, c'est parfait pour remplacer le cocktail, puis avoir l'impression de rester dans les festivités des fêtes.
J'aurais pas mieux dit, et pour faire ce mocktail-là, vous allez commencer par faire un sirop simple festif. Les ingrédients du sirop simple festif sont une tasse d'eau, une tasse de cassonade, des épices entières au choix, mais nous on a pris de la cardamome, ben je dis nous. Je veux juste dire que ça vient absolument pas de nous, c'est vraiment juste mon chum qui a tout fait, nous on fait juste prendre le mérite. Cardamome, cannelle, clou de girofle, grains de poivre, anis étoilé et muscade, du zeste d'orange et une branche de romarin. Vous savez comment faire du sirop simple, je pense qu'on le dit assez souvent, mais mettez-moi tous ces ingrédients-là, bouillez ça pendant peut-être, mettons, 10 minutes pour être sûr que là, avec tous les ingrédients, que ça l'infuse bien. That's it, that's all.
Basketball! Est-ce que vous l'avez dit avec nous?
Je suis certaine que oui. Bref, vous avez votre sirop simple et ensuite de ça, on passe à l'assemblage du mocktail. Dans un verre, vous allez ajouter une poignée de canneberge gelée. Ensuite, vous allez ajouter environ 1 à 2 cuillères à soupe du sirop festif. Vous ajoutez vraiment selon vos goûts. Nous, on aime ça quand c'est pas trop goûteux. Mais il y en a qui adorent les épices de Noël, qui adorent les cocktails, qui adorent les cafés Starbucks qui goûtent vraiment beaucoup le pain d'épices ou le eggnog. Donc, si vous aimez toutes ces choses-là, mettez-en plus si vous voulez. Bref, ensuite de ça, vous allez compléter avec soit de l'eau pétillante ou du club soda. Nous, on le fait avec du club soda. Puis vous allez finir en mettant une branche de romarin et un zeste d'orange, juste la pelure en forme de rondelle. Mettez-la comme vous voulez, tant qu'elle est là. Ça n'a pas été facile à dire.
Mais c'est facile à boire parce que c'est bien bon. Moi, je vais donner un 8,5 sur 10 parce que ça goûte vraiment, vraiment Noël. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment épicé, mais pas épicé piquant, mais vraiment épicé. Il y a beaucoup de goût. Et voilà, je trouve ça assez festif, je trouve ça assez satisfaisant. Ça se boit quand même assez tout seul. Là, et c'est ça. Fait que 8,5.
C'est facile à faire aussi. C'est ça que j'aime de ce mocktail-là. Évidemment, là, je l'ai dit un peu tout croche. J'ai l'impression que c'était vraiment pas clair de la façon que je l'ai dit parce que, bon, TDAH. Mais c'est ça, je trouve que c'est super facile à faire. Puis justement, comme Jess a dit, c'est épicé. Mais en plus de ça, on peut... Tu sais, c'est nous-mêmes qui peut gérer le niveau d'épices qu'on veut mettre dedans. Puis c'est nous-mêmes qui peut juste faire le sirop simple, tu sais, comme qu'on veut aussi. Fait que vous pouvez vraiment modeler la recette comme vous voulez. Puis ça, je trouve que c'est vraiment le fun. Fait que je vais donner un 9 sur 10. Pas juste parce que c'est mon chum qui l'a fait.
Puis je veux juste rajouter que je peux comprendre que ça peut sembler compliqué de faire tout ce sirop simple pour un seul mocktail, mais c'est comme une bonne batch que ça vous fait. Là. Fait que vous pouvez conserver ce sirop-là puis en faire tout au long du temps des fêtes, même après. Puis ouais, c'est ça. Voilà. J'ai fini. J'ai comme pris une inspiration comme si j'allais continuer la phrase, mais elle était terminée. Cheers!
Chin, chin! Je pense qu'en fait, Jess, l'inspiration qui t'est venue, c'est parce que maintenant, on est rendu à parler de la cause de CSC du jour.
Oui, puis aujourd'hui, c'est une cause qui tient vraiment beaucoup au cœur de Crème et Cocktail. Puis là, ben, en fait, toutes les causes dont on a fait mention jusqu'à date et dont on va faire mention dans l'avenir nous tiennent beaucoup à cœur. Mais celle-là, vous allez comprendre pourquoi ça touche une petite fibre plus sensible, étant donné que, ben, ça touche les infirmières, ces piliers essentiels de notre système de santé qui, jour après jour, se lève tôt le matin ou se couche pas le soir pour pouvoir s'occuper de nous, essayer du mieux qu'elles peuvent de garder la tête hors de l'eau avec tous les systèmes d'urgence qui sont occupés à plus de 100% et notre système de santé qui est en train de s'écrouler. Sincèrement, à Crème et Cocktail, vous n'étiez pas que des héros durant la pandémie, vous l'êtes encore à tous les jours. Justement, en leur honneur, on tenait vraiment à mettre en lumière la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, un organisme qui soutient des projets novateurs pour rendre les soins plus humains et plus accessibles. Et je pense que sincèrement, il y a personne qui peut argumenter avec le fait que le Québec en a bien besoin. La Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, aussi connue avec l'abréviation FCASS, c'est un organisme sans but lucratif qui soutient des initiatives qui visent à améliorer la qualité des soins de santé au Canada. Et elle travaille en partenariat avec justement les patients sur le terrain, les familles, les communautés pour être en mesure de développer des solutions qui sont basées sur la chose la plus importante du système de santé, le contribuable. Parmi ces projets, la FCASS finance et accompagne des équipes à travers le pays pour intégrer davantage les patients dans la conception et l'évaluation des soins, et ça favorise ainsi des services qui sont plus adaptés, plus efficaces, et c'est un modèle qui contribue également à réduire éventuellement les coûts de santé en proposant des innovations durables et efficaces. En gros, là, c'est un organisme, une fondation qu'on ne peut passer sous silence, particulièrement dans ces temps autant difficile dans notre système de santé.
Et si l'histoire d'aujourd'hui vous inspire à envisager une carrière en soins infirmiers, sachez que la Fondation de l'OIIQ offre des précieuses ressources pour accompagner les futurs professionnels. Elle offre par exemple des bourses d'études ou des formations spécialisées pour soutenir le développement des professionnels de la santé. C'est des initiatives qui visent à encourager et appuyer les futures infirmières et infirmiers dans leur parcours éducatif et professionnel. Bref, ces deux fondations témoignent de l'importance du rôle des infirmières et infirmiers dans notre système de santé et de leur impact positif sur la qualité des soins.
Chers auditeurs, on est en plein dans la saison du Sagittaire et c'est un signe qu'on célèbre du 22 novembre au 21 décembre et que nous, ben, on voulait célébrer aujourd'hui dans le cadre d'un épisode spécial Zodiac. Le Sagittaire, c'est un signe de feu qui est plus souvent qu'autrement une personne enjouée, dynamique, curieuse, aventurière. Mais ça, vous le savez déjà parce que c'est déjà notre troisième épisode spécial Zodiac sous le signe du Sagittaire. Les passionnés de l'astrologie vont dire des Sagittaires que c'est un signe qui sont assez sujets à être des personnes colériques et impatients. Eh bien, on va simplement dire que c'est exactement le cas du Sagittaire présenté aujourd'hui. Nos sources pour le cas du jour sont Britannica.com, Murderpedia.com, AllThatIsInteresting.com, le New York Times, Reddit, la Chicago Tribune, Wikipédia et YouTube. L'histoire débute un 6 décembre de l'an 1941 parce que c'est le jour où Mary Margaret Carbo va donner naissance à Richard Speck dans le village de Kirkwood en Illinois aux États-Unis. Fils de Benjamin Franklin Speck et non pas le Benjamin Franklin. Il est le 7e d'une fratrie de 8 et il y a plusieurs années qui séparent Richard et sa petite sœur Caroline des autres enfants. On parle d'une dizaine d'années environ. Marie Margaret, la mère de Richard, c'est une femme qui est assez rigoureuse, qui est assez à cheval sur les règles au début de leur vie. Et c'est une femme qui est extrêmement croyante, surtout. Elle refuse catégoriquement d'ingérer que ce soit alcool, drogue. Elle veut vraiment toujours avoir toute sa tête. Elle refuse de manquer l'heure de la prière, une messe du dimanche. Vous voyez, genre, comme on dit en bon québécois, les enfants sont gérés au quart de tour. Son père, pour sa part, il occupe différents emplois qui sont assez manuels et éventuellement, ça va être une opportunité professionnelle qui va pousser les Speck à déménager dans un autre village dans l'Illinois qui s'appelle Monmouth. Richard Speck, c'est le plus grand fan, le meilleur ami de son père et malheureusement, il a seulement 6 ans lorsqu'il va être forcé à vivre ce qu'il dit être l'un des plus grands deuils de sa vie parce que son père va décéder à la suite d'une crise cardiaque et ben comme ça arrive souvent dans des cas de crise cardiaque, c'était absolument imprévu et donc il ne s'y attendait pas du tout. Le reste de la famille va encaisser le coup avec difficulté aussi là, pour Mary Margaret. Elle, ça va être vraiment plus difficile parce qu'elle va avoir de la difficulté à s'occuper toute seule de sa marmaille, mais étant donné que quelques-uns des frères et sœurs de Richard qui sont déjà plus vieux, autonomes, mariés avec leurs appartements, elle va être capable d'obtenir de l'aide de ces enfants-là. Ça va justement être l'une des grandes sœurs de Richard qui va les prendre en charge, lui et sa plus jeune sœur Caroline, et elle va s'assurer de leur offrir un environnement stable pour qu'ils puissent terminer leur deuxième année d'école primaire, et ben ça va fonctionner à merveille, ils vont réussir à l'école, ils vont pas être déstabilisés trop par le décès malgré le fait que ben ils vivent un deuil assez grand. En parallèle, la mère de Richard, elle va faire la rencontre d'un nouvel homme alors qu'elle était en train de rentrer à Chicago en train. À première vue, Auguste Rudolph Lindbergh, c'est un brillant homme d'affaires qui est venu du Texas pour vendre des assurances à des compagnies illinoises. Mais quand on creuse plus, on se rend assez rapidement compte qu'Auguste, c'est un homme au passé assez houleux et au dossier criminel vraiment bien garni. Conduite avec les facultés affaiblies, falsification de documents, vol, fraude, vous voyez le portrait là. En plus, son penchant pour la criminalité, Auguste, il y a aussi un fort penchant pour la bouteille et en mai de l'an 1950, Mary Margaret va tout de même prendre la décision de l'épouser et ils vont faire ça dans l'État du Texas parce que ben c'est là d'où Auguste est originaire. Par contre, Mary Margaret juge que c'est plus sage de laisser ses deux plus jeunes enfants avec leur sœur en Illinois pour terminer leur année scolaire avant ben de les forcer à faire le bagage et de s'installer avec son nouveau mari dans le comté de Santo au Texas. De prime abord, c'est une aventure qui s'avérait assez excitante pour Richard, qui était assez excité de changer de paysage, mais rapidement, ça s'est transformé en espèce de cauchemar éveillé pour lui parce que, ben, il déteste son beau-père et surtout, il déteste la manière avec laquelle celui-ci traite sa mère. Son beau-père, il boit énormément et lorsqu'il boit trop, il va devenir extrêmement provocateur, méchant, voire même violent. Mais ça n'empêche pas Richard de réussir à garder sa tête hors de l'eau, à réussir sa troisième année. Il va réussir même à se faire quelques petits amis. Mais malheureusement, lorsque le drame va s'abattre de nouveau sur la famille des Speck et que le plus vieux de la fratrie, Robert, va décéder dans un accident de voiture, ça va vraiment être le début de la fin pour Richard. En parallèle, son beau-père, Auguste, boit de plus en plus, devient de plus en plus violent verbalement et pour vrai, ça dégringole vraiment rapidement pour Richard. Lui qui était assez gentil, ouvert, il va devenir vraiment méchant, mesquin, peu approchable, il va devenir assez nul à l'école parce qu'il va tout simplement refuser de faire ses devoirs, il refuse de porter ses lunettes de vue pour pas être capable de voir ce qui se passe sur le tableau, il refuse de parler avec les gens dans la classe, il ignore ses professeurs lorsqu'il l'aborde, comme vraiment, c'est une pente descendante et ça descend vite. Déçu par tous les hommes qu'il a fréquentés dans sa vie, Richard va décider de se tourner vers quelque chose qui semble toujours soulager son beau-père. Et la première fois que Richard décide de toucher à la bouteille, il a seulement 12 ans. C'est comme une espèce de révélation pour Richard. À ce moment-là, là, bien rapidement, beaucoup trop rapidement, il va réaliser que lorsqu'il boit assez, ben, il ne sent plus rien. Même pas l'absence de son père et de son frère. Et ben, il va juste continuer de boire et de boire. Et de boire. Il va sans dire que le fait que la famille déménage constamment dans des quartiers plus défavorisés les uns que les autres, ça le fait seulement empirer la chute rapide de Richard dans la consommation parce que, bon, il était complètement isolé et il n'arrivait tout simplement pas à sortir de cette bulle d'isolation-là. Il va avoir 13 ans la première fois qu'il va entrer dans la mire des policiers et il va se faire arrêter après être entré par infraction sur un terrain et ce fut la première d'une longue très longue série. Comme plusieurs des tueurs en série qu'on a présentés dans le cadre de ces épisodes spéciaux Zodiac, les policiers ont mis la main sur Richard Speck à maintes et maintes et maintes reprises avant d'être en mesure de l'arrêter pour de bon. Juste à Dallas, là où il a résidé pendant quelques années, il s'est fait arrêter un total de 41 fois. Mais ça, on va y revenir plus tard. Donc, comme je le disais, Richard, il va rapidement devenir un jeune homme assez imprévisible. Par contre, il y a une chose qui est assez prévisible, c'est que ben tous les jours, il va être complètement saoul. Il n'y a pas une journée où Richard n'était pas complètement torché parce qu'il avait bu et bu et bu. Et ça, c'est à l'âge de 15 ans. En janvier 1958, alors qu'il a 16 ans, qu'il vient tout juste de les obtenir, il va prendre la décision qui est maintenant légale de ne plus retourner à l'école et donc de ne pas compléter son diplôme d'études seul. Secondaire et à la place, il va passer son temps ben, à être un vrai petit voyou. 2 ans après avoir lâché ses études, il va décrocher un emploi dans une usine d'embouteillage pour la compagnie 7-Up. Et c'est à cet endroit-là qu'il va faire la rencontre de Shirley Annette Malone, de qui il va tomber automatiquement sous le charme. Et ben c'est complètement réciproque. 3 semaines après avoir commencé à fréquenter plus sérieusement Richard, elle va lui annoncer être enceinte. Sont sur un petit nuage, sont extatiques, sont heureux de cette nouvelle-là, sauf qu'un petit détail qui est assez important, c'est que Shirley Malone, elle a 15 ans. Elle a 15 ans et elle vient de se faire mettre enceinte par son amoureux qui a 18 ans, qui est sans le sou, qui est dans la criminalité jusqu'au cou et qui, justement, adore prendre un coup. Ils vont officialiser leur union et se marier le 19 janvier 1962. Et justement, il va avoir pris plusieurs coups en juin 1962 quand il va s'impliquer dans une bagarre générale dans un bar au Texas. Et ça va faire en sorte qu'il va être derrière les barreaux lorsque Shirley va donner naissance à leur fille Robbie Lynn Speck. En parallèle, sa sœur va se marier à un homme assez respectable et sa mère va décider enfin qu'elle se respecte assez pour quitter son époux abusif. Et Richard, qui avait alors adopté le nom de famille de son beau-père, va recommencer à se faire appeler Richard Speck. Donc c'est pour ça que si des fois vous allez rechercher sur Google, vous pouvez voir un autre nom, mais c'est bien Richard Speck. On pourrait croire que la naissance de la fille de Richard, ça l'aurait pu l'adoucir ou au moins lui donner envie de se concentrer sur autre chose que l'alcool et la criminalité. Mais hein, on est à Crème et Cocktail, on parle malheureusement pas de fin heureuse. Je vous avais dit que des policiers avaient mis la main et même passé les menottes à Richard Speck plusieurs fois avant que drame ne se produise. Ben, je ne vous mentais pas. Malgré son court séjour d'une vingtaine de jours en prison durant l'été de 62, il va quand même décider de continuer de commettre des crimes. Il va se faire entre autres épingler à voler et à encaisser le chèque de paie d'un collègue de travail et à braquer une épicerie de quartier. Malgré le fait que pour le braquage, il n'avait pas réquisitionné d'argent, qu'il avait juste demandé des cigarettes et de la bière, ben c'est la même chose aux yeux des policiers, aux yeux de la justice, et il va être condamné à 3 ans de prison, mais il va réussir à sortir après 16 mois d'incarcération pour bonne conduite. Richard Speck ne va pas attendre un instant de plus. Et même pas une semaine après avoir été relâché, il va s'attaquer à une femme dans le stationnement de son appartement à elle. Et cette fois-là, il est armé d'un couteau. C'est la toute première fois qu'il tente de s'attaquer à une autre personne dans possiblement le but de lui donner la mort ou du moins dans le but de la blesser. Et heureusement pour la femme, elle va crier à plein poumon. Elle va être en mesure de s'enfuir parce que ben, Richard Speck ne la pourchasse pas. Il dit qu'il n'en a pas ressenti le besoin, du moins pas cette fois-ci. Il va être un peu étonné de se faire aborder par les policiers quelques mètres plus loin, mais lorsque les policiers vont réaliser qu'il est armé d'un couteau, ils vont comprendre qu'ils ont trouvé leur homme. Et moins de 7 jours après avoir été mis en liberté, Richard Speck va être de nouveau emprisonné. Cette fois-ci, il va être condamné à 16 mois de prison, mais dû à une erreur judiciaire, il va obtenir sa libération après 6 mois derrière les barreaux. Je veux juste me rappeler que pour avoir volé de l'argent à son collègue de travail, pour avoir volé de la bière, des cigarettes, il avait obtenu 3 ans de prison. Je me pose juste une petite question. Si ça avait été un homme que Richard Speck avait tenté d'assassiner, est-ce qu'il aurait été aussi rapidement relâché? Il va justement retrouver sa liberté 3 jours avant l'anniversaire de 3 ans de sa fille en juillet 1965. Et fille qu'il néglige vraiment, vraiment beaucoup et qu'il couvre d'insultes, de traumatismes, tout comme sa pauvre épouse Shirley. Lui qui a eu un modèle à ne pas suivre dans son beau-père va décider à la place de juste marcher dans ses pas. Shirley va éventuellement prendre la décision de se séparer de Richard Speck, mais comme le monsieur n'autorise pas sa demande de divorce, elle est contrainte de rester mariée à cet homme parce que ben on est dans les années 1960 et ça a bien l'air qu'une femme n'a pas le droit de choisir si elle veut divorcer de son homme. Rapidement après avoir été libéré en 1965, il va se décrocher un emploi comme livreur dans une boucherie quelconque, mais il boit tellement souvent qu'il n'arrête pas de pogner des accidents. Au total, Richard Speck va causer un minimum de 8 accidents de la route avec le camion de la compagnie. Et attendez, tenez-vous bien, la compagnie ne l'a jamais renvoyé. Du moins, pas pour sa mauvaise conduite, comme littérale mauvaise conduite. Il s'est fait remercier de la compagnie parce qu'il est arrivé en retard à quelques reprises. Fait que, encore une fois, la logique de certains systèmes américains va toujours fasciner l'équipe de Crime & Cocktails. Restant fidèle à ses habitudes, Richard va pas attendre très longtemps avant de replonger dans la bouteille et dans le monde criminel à la fois. Il va s'armer d'un couteau, se rendre dans un bar dans l'intention de boire quelques verres et pour une raison inconnue, le bar va se transformer en littéralement une scène de carnage et il y a plusieurs personnes qui se mettent juste à s'interchanger des coups de couteau. Évidemment, Richard Speck est impliqué, il va se faire arrêter, il poignarde un homme dans la mêlée, il va se faire accuser d'agression armée pour avoir poignardé quelqu'un et puisqu'il est séparé de son épouse, il est tenu éloigné de sa fille, il va se retourner vers l'autre femme qui veut encore de lui, sa mère, et elle va l'accueillir à bras ouverts. Elle est déterminée à aider Richard. Elle va lui référer un avocat criminaliste assez réputé qui, ben, va réussir à réduire sa peine. Richard Speck, un récidiviste qui cumule les allers-retours en prison comme s'il avait un abonnement annuel, se fait accuser d'avoir troublé la paix et se fait contraindre de payer la modique somme de 10$ à l'État.
C'est pendant cette période d'aller-retour en prison que Richard Speck s'est fait tatouer « Born to raise hell » sur le bras, donc « Né pour semer le chaos », une phrase qui résume bien ce que sa femme Shirley a vécu, l'enfer. En janvier 1966, le divorce a finalement été accordé, tant mieux pour Shirley parce qu'elle refusait de rester coincée dans ce cauchemar-là et ça prenait beaucoup de courage, bien encore aujourd'hui, mais surtout à cette époque-là, de divorcer de son mari. Après avoir été arrêté pour cambriolage et agression une fois de plus, Speck a pris la fuite et s'est réfugié à Chicago chez sa sœur Martha quelques mois plus tard. Il y est resté quelques jours avant de partir pour Monmouth en Illinois où il a trouvé refuge chez des amis de la famille qu'il connaissait depuis son enfance. Pendant une courte période, il a été charpentier, mais ses actes monstrueux ont continué sans relâche. Virgil Harris, 65 ans, a été violemment violé et volé dans sa propre maison le 2 avril 1966. De retour chez elle vers 1h du matin, elle a trouvé un cambrioleur dans sa maison brandissant un couteau. Selon ses dires, c'était un homme blanc d'environ 1m80 qui était très poli et parlait très doucement avec un accent du sud. L'homme lui a bandé les yeux, l'a ligoté, violé, a saccagé sa maison et a volé les 2,50$ qu'elle avait gagnés en gardant des enfants ce soir-là. Dites-vous que 2,50$ en 1966 équivaut aujourd'hui à environ 80$ américains en 2024. Une semaine plus tard, c'est Marie-Catherine Pierce, une serveuse de 32 ans qui travaillait à la taverne de son beau-frère, Frank's Place, dans le centre-ville de Monmouth, qui a été vue pour la dernière fois en quittant la taverne vers 20h le 9 avril. Elle a été portée disparue le 13 avril et son corps a été retrouvé le même jour dans une porcherie vide derrière la taverne. Elle était morte d'un coup à l'abdomen qui lui avait rompu le foie. Speck avait justement fréquenté régulièrement Frank's Place et la porcherie vide était l'une des nombreuses qu'il avait aidé à construire le mois précédent, donc la police de Monmouth l'a brièvement interrogé sur la mort de Marie-Catherine Pierce lorsqu'il s'est présenté pour récupérer son dernier chèque de menuiserie le 15 avril et lui a demandé de rester en ville pour un interrogatoire plus approfondi. Bien évidemment, lorsque la police s'est présentée pour interroger Speck, ce dernier avait quitté la ville. Une fois de plus, il a réussi à échapper aux questions de la police, au système judiciaire et à s'échapper. Mais la police a découvert des effets personnels de Harris dans sa chambre d'hôtel vide qui le liaient de manière concluante à son agression. Le 19 avril 1966, Speck revient vivre dans l'appartement de sa sœur Martha dans le quartier d'Old Irving Park au nord-ouest de Chicago où elle vit avec son mari Jean Thornton et leurs deux filles adolescentes. Martha avait travaillé comme infirmière diplômée en pédiatrie avant de se marier et son mari Jean travaillait la nuit comme aiguilleur ferroviaire. Dans le but de cacher la véritable raison derrière son départ précipité de Monmouth, Speck leur a raconté une histoire rocambolesque sur le fait qu'il a dû quitter la ville après avoir refusé de vendre des stupéfiants pour un syndicat du crime de la ville. Le beau-frère de Speck, Jean, ancien de la marine, a pensé que la marine marchande pourrait être une bonne option pour Speck. Donc, le 25 avril, il l'a amené au bureau de la garde côtière pour faire une demande de lettre d'autorisation. Avec cette lettre-là en main, Speck a rapidement trouvé du travail et a rejoint l'équipage du cargo Clarence B. Randall le 30 avril. Par contre, son premier voyage a été écourté le 3 mai. Il a été évacué en urgence pour une appendicite et opéré à l'hôpital Saint-Joseph dans le nord du Michigan. Il a commencé à sembler que des corps étaient retrouvés partout où Speck avait été. Les autorités de l'Indiana voulaient l'interroger au sujet du meurtre de trois filles qui avaient disparu le 2 juillet 1966 et dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Les autorités voulaient également l'interroger sur ses allées et venues lors du meurtre de quatre autres femmes âgées de 7 à 60 ans parce que son navire se trouvait dans les environs à ce moment-là. Speck, cependant, semble avoir un don pour s'échapper rapidement et laisser les forces de la police dans le doute. Après sa sortie de l'hôpital, il est retourné chez sa sœur Martha à Chicago pour récupérer et le 20 mai, il a repris son poste sur le Clarence B. Randall, mais après une dispute en état d'ébriété avec un officier, il a débarqué le 15 juin. Le 30 juin, son beau-frère le conduit au bureau de recrutement de l'Union nationale maritime pour déposer ses papiers. Ce bureau-là se trouvait seulement à 50 mètres d'un groupe de maisons où logeaient des infirmières, dont 8 étudiantes, dans un des bâtiments les plus proches. Le 8 juillet 1966, Speck est allé récupérer sa carte de marin au bureau de recrutement, mais il n'a pas obtenu le poste qu'il espérait et est retourné chez sa sœur Martha pour le week-end. Le 11 juillet, après avoir dépassé les limites de l'hospitalité, on s'entend que sa sœur et son beau-frère l'ont énormément aidé, puis à un moment donné, assez c'est assez, surtout que Speck n'a pas l'air de vouloir s'aider lui-même. Il a quitté la maison et il a passé la nuit dans une pension de South Deering. Le lendemain, il a été affecté à un pétrolier, mais le poste n'était plus disponible à son arrivée, donc sans argent pour prendre une autre pension, il a dormi dans une maison en construction. Deux jours plus tard, soit le 13 juillet, frustré par l'attente d'un travail qui ne venait pas, il a quitté le bureau avec 25 $ donnés par sa sœur et s'est installé dans une pension sur l'East Side de Chicago. Speck a passé la journée à faire ce qu'il savait le mieux, à boire, dans des tavernes voisines, avant de menacer Ella Mae Hooper, 53 ans, avec un couteau. Il l'a amené dans sa chambre, l'a violé, puis lui a volé son revolver. Armé de cette arme et d'un couteau, il a dîné à proximité avant de retourner boire jusqu'à 22h20. Ensuite, il s'est dirigé vers la maison où 8 étudiantes infirmières logeaient. En fait, la maison de ville servait de dortoir pour les étudiantes infirmières. Lorsque Corazon Amurao, 23 ans, a ouvert la porte d'entrée lorsque Speck a frappé à la porte, il a forcé l'entrée sous la menace d'une arme. Il a alors rassemblé les étudiantes infirmières et leur a ordonné de vider leurs sacs à main avant de les ligoter une par une. Il a commencé à les brutaliser de la manière la plus horrible au cours des heures qui ont suivi. Celles qui ont eu la chance d'être dehors au moment de son arrivée ont également été victimes d'attaques brutales à leur retour chez elles plus tard dans la soirée. Au total, 8 femmes, âgées de 19 à 24 ans, ont été systématiquement ligotées, volées, battues, étranglé et poignardé pendant la frénésie de Speck. En utilisant seulement un couteau, il a tué Gloria Davy, Patricia Matusek, Nina Jo Schmel, Pamela Wilkening, Susan Ferris, Mary Ann Jordan, Merlita Gargulo et Valentina Passion. Speck a gardé les femmes dans une pièce pendant des heures, les faisant sortir une par une, les poignardant ou les étranglant à mort, et finalement a violé et étranglé sa dernière victime, Gloria Davy, 22 ans. Des intervalles de 20 à 30 minutes environ s'écoulaient entre chaque meurtre. Le nombre de victimes était si élevé qu'il n'a pas remarqué que Corazon Amurao, qui lui avait ouvert la porte à son arrivée, avait réussi à se cacher sous l'un des lits. C'est grâce à elle qu'on connaît toute l'horreur et le déroulement de cette soirée-là, Et lorsque Speck est parti quelques heures plus tard, emportant l'argent qu'il avait volé, elle s'est recroquevillée dans sa cachette, terrifiée pendant des heures, avant de finalement trouver le courage d'aller chercher de l'aide vers 6 heures le matin. Elle est sortie sur le rebord d'une fenêtre et a crié à l'aide, ce qui a amené des voisins inquiets à appeler la police. Avant qu'on continue, je veux juste que vous vous mettiez dans la situation. Imaginez-vous, là, vous faites ligoter avec vos autres colocataires dans le salon, vous êtes 8, puis une par une, vous faites prendre, vous faites amener dans une pièce, vous entendez juste vos colocataires, vos consoeurs crier au meurtre. Tu fais juste entendre ta consoeur se faire amener dans une pièce, crier, t'entends plus rien. Puis après ça, c'est une autre qui passe. Moi, c'est ça qui me choque le plus de cette histoire-là, c'est de me mettre dans leur peau, puis je me dis à quel point ça a dû être horrifiant comme mort.
Puis tu sais, tu dis crier, c'est pas juste des cris, tu sais. Crier au meurtre, c'est pas pour rien que c'est une expression. Tu sais, je pense qu'il y a personne qui a jamais été préparé à entendre ça, le cri de quelqu'un qui se fait agresser à mort et qui souffre le martyr, parce que c'est comme ça que ces femmes-là sont mortes, là, dans d'atroces souffrances. Et tu sais, je veux dire, d'être dans le même appartement qu'une de tes amies, justement, de l'entendre souffrir comme ça, de ne rien pouvoir faire, et de se dire que c'est peut-être toi qui vas subir après ça le même sort, pour vrai, c'est juste... excusez, j'ai pas d'autre mot de dire que c'est décalissant. C'est tellement froid comme meurtre, mais surtout, c'est tellement de la torture psychologique en plus d'être la torture physique. Là, tu fais vraiment bien de prendre un 2 secondes pour rappeler aux gens l'intensité des meurtres et de ce que les victimes ont dû ressentir. C'est juste, il y a pas de mots, là.
Exactement. Même si on parle d'un tueur en série aujourd'hui, c'est vraiment important de pas oublier les victimes, ce qui arrive un peu trop souvent dans les cas, justement, de tueurs en série.
Justement, en parlant de victimes, la police va prendre le temps d'écouter Corazon Amuro et ils vont être assez soulagés d'apprendre que l'agresseur de tout ça a un tatouage assez unique, né pour semer le chaos. Je veux pas dire qu'ils sont soulagés de tout ce qui s'est passé, je veux juste dire que quand on a des tatouages aussi particuliers, ça l'aide les chances de retrouver la personne recherchée. Justement, ils vont pas hésiter une seule seconde, vont partager cette information-là aux médias qui étaient tous à avoir des réponses de succès parce qu'on vient de dire c'est un meurtre d'une atrocité sans nom, ça dépasse l'imaginaire. Et bien évidemment, les policiers voulaient retrouver rapidement l'auteur de ce meurtre-là. Richard, lui, il était toujours dans une espèce de tourbillon noir. Et là, c'est à ce moment-là qu'il va se mettre à regretter ses gestes. Et, comme il sait si bien le faire, il va boire pour oublier et il va se rendre dans le bar d'un hôtel où il va être remarqué justement par un homme qui était en train de boire son cocktail à lui. Et l'homme va remarquer son tatouage qui est assez particulier, il va s'isoler, téléphoner aux policiers qui, eux, vont l'ignorer. Ils vont jamais répondre à l'appel qui a bel et bien été enregistré le bon Samaritain a appelé, c'est les policiers qui n'ont pas répondu et donc ils ne vont jamais se rendre dans le bar du Star Hotel malgré le fait que un homme venait d'affirmer avoir reconnu le meurtrier. Ce petit délai-là va donner l'occasion à Richard Speck de se louer une chambre dans l'hôtel et c'est là qu'il va tenter de s'y enlever la vie. Mais il y a un employé de l'hôtel qui, pour une raison assez mystérieuse, qui était très floue dans les articles qu'on a consultés, l'employé va arriver au bon moment pour empêcher Richard de commettre l'acte final. Il va téléphoner aux ambulanciers qui, eux, vont répondre à l'appel. Il va être transporté à l'hôpital et le docteur qui était de garde va remarquer son tatouage. Lui aussi va téléphoner au service d'urgence, mais on va l'écouter, lui. Et c'est à ce moment-là qu'on va finalement arriver à l'hôpital, dans la chambre de Richard Speck, lui passer les menottes le 17 juillet 1966.
J'aurais été tellement fâchée s'il avait réussi à s'enlever la vie à cause de l'inaction des policiers. Oh mon Dieu, juste y penser, ça me fait bouillir de l'intérieur. Un homme qui a tué 8 femmes super violemment, puis quelqu'un te dit qu'il l'a trouvé, puis toi tu vas juste l'ignorer. Je sais pas c'est quoi les raisons derrière ça, mais j'ai l'impression qu'il y en a pas une qui va être bonne.
Tu sais, je veux dire aussi, on pense-tu à la personne qui a téléphoné? Genre après, cette personne-là doit retourner peut-être au bar, payer sa facture, ou doit, tu sais, savoir qu'elle est en contact avec cette personne-là qui vient de commettre cet acte-là. Mais si, mettons, elle part de l'hôtel, elle sait qu'elle laisse toutes les autres personnes de l'hôtel en danger. Je veux dire, c'est quoi ça?
Ça a absolument pas de bon sens, puis ça me fait rebondir sur un commentaire que t'as dit plus tôt. Si ça avait été 8 hommes qui auraient été tués par Richard Speck, est-ce qu'il y aurait eu autant d'inaction de la part des policiers? Bref, on va continuer avec le procès de Speck. Justement, son procès devant jury a débuté le 3 avril 1967 à Peoria, dans l'Illinois, à 3 heures au sud-ouest de Chicago, avec une ordonnance de non-publication. Au tribunal, Speck a été formellement identifié par la seule étudiante infirmière survivante, Corazon Amurao. Lorsqu'on lui demande si elle pouvait identifier le meurtrier de ses camarades étudiantes, elle s'est levée de son siège à la barre des témoins, elle a marché directement devant Speck et l'a pointé du doigt, le touchant presque, et a dit « c'est l'homme ». En plus de ça, le lieutenant Émile Giaz a témoigné que les empreintes digitales sur la scène avaient été comparées à celles de Richard Speck et avaient été un match. Le 15 avril, après seulement 49 minutes de délibération, le jury a déclaré Richard Speck coupable et a recommandé la peine de mort. Le 5 juin, le juge Herbert C. Pashkin a condamné Speck à mourir sur la chaise électrique, mais a accordé un sursis immédiat en attendant l'appel automatique. La Cour suprême de l'Illinois a, par la suite, confirmé sa condamnation et sa condamnation à mort a eu lieu le 22 novembre 1968. Comme on vient tout juste de le dire, dans bien trop de cas, on parle énormément des tueurs, mais trop peu des victimes, dont les noms sont souvent éclipsés par celui de leur meurtrier. Les meurtres ont rendu Richard Speck célèbre, des livres, des documentaires, d'innombrables reportages ainsi qu'un film de 2007 intitulé « Chicago Massacre Richard Speck » ont été consacrés au « crime du siècle ». Les femmes qui l'ont assassiné ont quant à elles été reléguées au rôle de victimes. Leurs noms ont été largement oubliés, sauf par ceux qui les aimaient et qui ne pouvaient pas les oublier. Aujourd'hui, leurs noms seront dits haut et fort. On va prendre le temps de se souvenir de chacune, non pas pour ce qu'elles ont subi, mais pour qui elles étaient réellement. Nina Joel Schmerl avait seulement 19 ans lorsqu'elle a décidé de devenir infirmière, un choix qui allait à l'encontre des attentes de l'époque. Après des débuts comme secrétaire, elle a trouvé sa vocation en aidant des patients dans un établissement de soins pour personnes âgées. Passionnée par le soin des autres, elle a rejoint une école d'infirmières en 1965 à Chicago. Douce, drôle et dévouée, Nina aimait Elvis, la couleur rose et sa Chevrolet Bel Air beige, un cadeau qui a été donné par son père. Ses camarades de classe la décrivaient comme une jeune femme ordinaire mais profondément altruiste, dévouée à sa mission de soignante. Son frère John a créé une bourse d'études en son honneur pour que son nom soit associé à un héritage positif. Aujourd'hui, Nina reste un symbole de compassion et de lumière, une vie fauchée bien trop tôt mais jamais oubliée. À l'âge de 14 ans seulement, après une journée d'école, Patricia Anne Matusek visitait régulièrement son cousin Tommy qui était mourant à l'hôpital communautaire de Roseland. Ses moments d'attention et de soins ont renforcé son désir de devenir infirmière. Avec ses amis, Patricia riait, faisait de la luge d'hiver et vendait des cacahuètes pour des œuvres caritatives. Elle partageait un lien spécial avec ses deux meilleures amies, les deux Arlene, avec qui elle passait des heures à s'amuser et à rêver. À 20 ans, Patricia poursuivait son rêve d'être infirmière. Sa famille et ses amis ont veillé à lui rendre hommage. Sa sœur Billy Jo, épaulée par son amie, a insisté pour préparer le corps de Patricia pour ses funérailles, voulant préserver sa beauté et son humanité, même dans la tragédie. 50 ans plus tard, ses amis d'enfance continuent de garder vivant le souvenir de Patricia, une jeune femme pleine de vie, arrachée trop tôt à ceux qui l'aimaient. Quelques jours avant sa mort, Pamela Lee Wilkening a appelé sa mère pour lui dire qu'il ne pourrait pas lui rendre visite ce week-end-là. À quelques semaines seulement de décrocher son diplôme d'infirmière, elle était absorbée par ses examens et devait rester chez elle pour étudier. Ça a été leur dernière conversation. À 20 ans, elle était une jeune femme calme et déterminée, souvent en retrait des plaisirs légers de ses colocataires. Sur une photo publiée après le drame, on la voit entourée de ses amis, vêtue de son uniforme d'infirmière, le regard baissé, reflétant sa nature sérieuse et appliquée. Originaire d'une petite maison en briques de Lansing, dans une communauté soudée où personne ne verrouillait ses portes, Pamela était une enfant studieuse. Entre son emploi dans une boulangerie et son engagement comme Girl Scout, elle incarnait discrètement une ambition tranquille. Son frère Jack avait un jour remarqué son tempérament stable et a prédit qu'elle serait une excellente infirmière. L'école d'infirmière lui avait fait découvrir les joies et les épreuves de la vie, accueillir des naissances, soigner les malades, assister au dernier instant. Même après avoir été blessée par un patient lors d'une rotation en psychiatrie, elle n'avait jamais renoncé à sa vocation. Pamela aimait regarder les courses de voiture de son frère peu avant sa mort, elle lui avait dit au revoir avec un sourire, à la semaine prochaine. Pour Jack, son frère, le traumatisme demeure. Aujourd'hui, à 79 ans, il pense à sa sœur à chaque jour, à la vie qu'elle aurait pu avoir et aux enfants qu'elle aurait pu rencontrer. Mary Ann Jordan, inspirée par sa grand-mère Grace, une infirmière chirurgicale respectée, et par son lien profond avec son frère Billy atteint du Down syndrome, décide de devenir infirmière spécialisée en pédiatrie. Quatrième d'une famille de 6 enfants, Mary Ann a grandi dans un environnement chaleureux du Southside de Chicago où elle montre très tôt un sens des responsabilités et un humour contagieux. Elle aimait la natation, le baseball, le badminton, le patinage sur glace et le softball. Elle aimait aider ses parents à s'occuper de ses frères et sœurs. Pendant l'été, elle accompagnait son frère Billy à la plage, elle pataugeait avec lui dans l'eau, le serrait souvent dans ses bras, le faisait rire. Imaginatrice, impressionnante et effrontée, Marianne faisait rire tout le monde autour d'elle. Malgré le temps, sa sœur Suzanne continue de se souvenir d'elle comme d'une personne exceptionnelle et espère que son histoire ainsi que celle de ses amis sera connue et honorée. John Ferris garde toujours une photo de sa sœur Suzanne Bridget Ferris dans son portefeuille, une petite photo scolaire en noir et blanc protégée dans une pochette en plastique à côté de la carte de prière de ses funérailles. De son surnom Suzy et aussi surnommée affectueusement Cookie par son père, elle était une grande sœur attentionnée, pleine de gentillesse et de créativité. Elle aimait fabriquer ses propres vêtements et malgré des moyens modestes, elle avait un talent naturel pour aider les autres, particulièrement en soins infirmiers. John se souvient des moments passés ensemble dans la cuisine familiale où elle lui apprenait des jeux comme le solitaire ou des recettes simples. Elle avait le don pour réconforter tous ceux qui l'entouraient, un don qu'elle aurait utilisé dans sa carrière d'infirmière. La dernière fois qu'il l'a vue, elle était heureuse avec des projets de mariage et un avenir prometteur. Suzy était aussi le genre de personne qui offrait généreusement, comme lorsqu'elle a confectionné une robe de bal pour une amie qui ne pouvait pas s'en acheter une. Elle a fini par s'inscrire à l'école d'infirmière et, même si ce n'était pas un domaine dont elle avait rêvé en tant que petite fille, elle avait tout simplement un don. Elle a fait preuve d'une aisance peu commune avec les mourants et n'a jamais rechigné devant le désordre que représentait le fait de s'occuper du corps humain. Aujourd'hui, son frère John trouve du réconfort dans ses souvenirs, même si chaque année, en juillet, la douleur de sa perte refait surface. Il s'efforce de transmettre à ses enfants et à sa famille qui étaient Suzy pour que sa mémoire continue de vivre à travers eux. En mai 1966, Valentina Passion, surnommée affectueusement Tina par ses proches, a quitté les Philippines pour Chicago, animée par l'espoir d'un avenir meilleur. Diplômée parmi les meilleurs de sa promotion en soins infirmiers à l'Université centrale de Manille, elle rêve de nouvelles opportunités et souhaite soutenir sa famille en envoyant une partie de son salaire. Tina, reconnue pour sa gentillesse et son talent en cuisine, partage son quotidien avec d'autres infirmières qui viennent de la Philippine, découvrant une nouvelle passion tout en restant profondément attachée à ses racines. Elle symbolise la détermination et le sacrifice de nombreuses femmes venues chercher une vie meilleure loin de leur foyer. Merlita Gargulo, originaire de l'île de Mindoro, était une jeune femme douce, timide et d'une grande générosité. Issue d'une grande famille, elle a aidé à élever ses 8 jeunes frères et sœurs tout en poursuivant ses études avec détermination. Admise au programme d'infirmière, elle a travaillé avec acharnement pour réaliser son rêve d'aider sa famille et de voyager. En 1966, elle quitte les Philippines pour Chicago où elle devient infirmière au South Chicago Community Hospital. Connue pour sa voix riche et son habitude de chanter en faisant la vaisselle, Merlita dégageait une présence chaleureuse qui marquait tous ceux qui la rencontraient. Malgré la distance, elle restait profondément attachée à sa famille et à sa terre natale, envoyant une grande partie de son salaire à ses proches et écrivant régulièrement des lettres pour raconter son quotidien. Dans l'une de ses lettres, elle confiait « C'est un week-end agréable et merveilleux, mais rien ne vaut la maison. » Merlita représentait la force et le courage des nombreuses femmes de la Philippine, comme j'ai dit tantôt, qui, comme elle, ont traversé des océans pour construire un avenir meilleur tout en restant fidèles à leurs racines. Gloria Davy était la deuxième d'une fratrie de 6 enfants, née et élevée à Chicago. Ambitieuse et déterminée, elle s'était orientée vers les soins infirmiers après avoir commencé des études d'anglais à la Northern Illinois University. En 1965, elle a été élue présidente de l'Association des étudiants en soins infirmiers de l'Illinois, un rôle qui reflétait son leadership et son engagement envers les autres. Selon sa sœur Lori, Gloria était une femme indépendante, intelligente et posée, mais aussi créative et parfois têtue. Elle avait une manière franche de s'exprimer, surtout quand elle n'approuvait pas quelque chose. Ses proches se souviennent d'elle comme une jeune femme motivée, avec une profonde volonté d'aider. À la maison, Gloria n'hésitait pas à demander à Laurie, alors toute jeune, de venir l'aider à ranger l'appartement qu'elle partageait avec d'autres infirmières étudiantes. Laurie se souvient encore de ses moments passés à nettoyer, fascinée par le monde des, entre guillemets, grandes filles. Le jour de sa remise de diplôme, Gloria n'était pas présente physiquement, mais son esprit et sa détermination étaient palpables. Sa petite sœur, Laurie, 11 ans, est montée sur scène pour recevoir le diplôme au nom de Gloria, un moment empreint de fierté et de tristesse. Même après toutes ces années, ses proches n'ont jamais oublié son sourire, sa force et sa passion. Laurie garde une image vive de sa grande sœur et continue de raconter son histoire pour honorer sa mémoire. Gloria Davy a marqué ceux qui l'ont connue par son ambition et son humanité, laissant une empreinte indélébile dans leur vie. Corazon Amurao, originaire de Bentagas aux Philippines, a grandi dans un petit village et une famille nombreuse. Après des études d'infirmière à l'Université d'Extrême-Orient de Manille, elle a travaillé quelques années avant de s'installer aux États-Unis en 1966 pour poursuivre sa carrière. Dévouée, elle envoyait une partie de son salaire, elle aussi, à sa famille qui était restée aux Philippines. Plus tard, elle est retournée dans son pays natal où elle a exercé comme infirmière et s'est impliquée dans sa communauté en devenant conseillère municipale. Mariée à un avocat, elle est finalement revenue aux États-Unis pour offrir à sa famille un environnement plus sûr. Elle a travaillé comme infirmière à l'hôpital universitaire de Georgetown à Washington, D.C., tout en élevant deux enfants. Aujourd'hui, elle est également grand-mère et son parcours reflète une résilience et une générosité remarquables.
On pense qu'il n'existe meilleure façon pour terminer un épisode comme celui-ci que de le conclure en parlant des victimes, des proches de ceux-ci et de rappeler que, ben, pour eux, la peine est à perpétuité. La douleur qui est ressentie derrière chacun des assassinats, il ne faut pas qu'elle soit passée sous silence au détriment du meurtrier. Et à Crime et Cocktail, ça va toujours nous tenir vraiment à cœur. Donc, c'est sur cette note aujourd'hui qu'on veut fermer nos micros. Non, sans se plier à notre tradition et vous offrir une petite bande-annonce pour la semaine prochaine. Donc, avant de fermer le micro, je vais le passer à ma co-animatrice, No. De quoi tu me parles la semaine prochaine?
On va embarquer dans une espèce d'histoire assez compliquée qui nous a été envoyée d'ailleurs d'une de nos auditrices. Ça va parler de meurtres de policiers. Encore une fois, on aime ça, mettre en lumière l'histoire des peuples autochtones et c'est un cas qui va rejoindre ça, en fait. Je sais pas comment faire un teaser sans en dire plus. C'est une histoire qui va être un petit peu compliquée, vraiment une grande tristesse, selon moi. Mais c'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine ou au prochain épisode. Je sais pas, il va être quand. La semaine prochaine, me semble.
Dans le prochain épisode, à Crime et Cocktail!
Donc, on se retrouve un moment donné pour un nouvel épisode. Est-ce que t'as tout mêlé?
Fait qu'on se retrouve vraiment bientôt, quand on va être plus organisé pour un prochain épisode. Non, c'est vraiment non, c'est pas ça!
Ok, attends. Une chance qu'on n'a pas bu et qu'on a juste pris un mocktail, mais on se retrouve prochainement
pour un nouvel épisode de...
Crème et cocktail.
Cheers, guys!
Chin, chin!
Et on l'a eu, yes!